cette évaluation repose sur trois types de critères. On commence par l'évaluation sociale. Il y a un entretien retraçant son récit de vie, famille, scolarité, trajet migratoire.
Selon moi, ça s'est bien passé parce que tous ceux qui m'ont demandé, je les ai répondu comme ils voudraient. Pourquoi je dis c'est injuste? Parce que selon moi, la manière dont nos parents nous éduquent, nous éduquer en Guinée et en Afrique, en fait, la manière dont on nous éduque et la façon dont l'éducation ça se passe en Europe. Il y a plusieurs différences entre l'éducation européenne et l'éducation africaine. Il y a plusieurs manières de l'éducation, donc chacun a sa manière d'éduquer. En Europe ici, on dit quand tu parles avec un adulte que tu dois le regarder face à face. Chez nous, en Guinée ou en Afrique, quand tu regardes un adulte d'une manière, il va te dire carrément tu me manques de respect. Tu n'as pas le droit de regarder dans le visage d'un adulte quand il te parle. Tu dois baisser la tête quand il parle et passer, c'est le respect pour nous. Mais quand tu regardes vis-à-vis dans le visage d'un adulte, il pense que tu lui manques de respect. Mais c'est vous, en Europe ici, tu ne regardes pas le visage d'un adulte, ça veut dire que tu prouves que tu mens. Et pourtant, ce n'est pas la raison, selon moi, parce qu'il y a trop de différences entre l'éducation européenne et l'éducation africaine.
Les personnes qui t'ont fait passer ces entretiens, tu penses qu'ils ne savent pas ça, en fait? Ils n'ont pas connaissance de ces différences de culture?
Oui, selon moi, oui, je peux dire oui. Je peux dire oui.
C'est-à-dire la vérité ne suffit pas, quoi?
Mais de fait, quand on te pose quelque chose, une question, la question que tu ne connais pas, tu ne seras pas obligé de répondre. Et en fait, la question qu'on te pose, si tu connais la réponse, tu le réponds. Si tu ne connais pas aussi la réponse de cette question, tu dis non, je ne connais pas. Tu n'es pas obligé de mentir. Oh, non, 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 non. Nous n'est pas habitué à mentir dans les questions que tu nous poses. Si on ne connaît pas, il faut qu'on cherche une solution à répondre, non.
Je te demande pas ton histoire personnelle, mais est-ce que tu penses que pour d'autres personnes, raconter aussi des traumatismes subis, est-ce que aussi de devoir les raconter, c'est pas très difficile de se dévoiler, et puis ça rappelle des très très mauvais souvenirs
Et en fait, surtout le chemin de ce voyage, tu peux subir certaines choses sur le chemin en venant en Europe. Et des fois, tu peux oublier certaines choses aussi. Et certains moments, c'est très risquant, surtout le voyage d'immigrants. Et en fait, quand tu les expliques, surtout tu les dis quelque chose qui est effrayant, ils vont dire comment un mineur peut traverser ces choses de danger. Et pourtant, en fait, tout le monde sait, la Méditerranée, pour traverser même d'abord, pour mettre ta vie en danger. Et de fait, j'aimerais toucher quelques points. Si tu vois, on laisse notre pays derrière nous pour venir en Europe, parce qu'on sait ce qu'on a laissé là-bas. C'est nous-mêmes qui connaissons ce qui se passe réellement chez nous. Et en fait, tu viens, on te juge sur une manière différente. Tu ne penses même pas que quand tu viens ici, parce qu'on quitte là-bas pour venir chercher la bonne heure ici. Et pourtant, là où tu as quitté est plus mieux que là où tu es venu. Alors, selon moi, je trouve ça injuste.
Les médias en France, les hommes et femmes politiques, ça veut dire quoi pour toi être un migrant? Tu te reconnais dans cette image-là, toi?
En fait, je ne connais pas plus grande chose sur l'affaire de l'immigrant, mais peu de choses que je connais. L'immigrant, on est obligé de le faire. Parce que l'image que nos États montre à la télé que voilà l'image de notre pays, c'est pas réel. Et ce qui se trouve en bas, on montre pas ça. Et en fait, de fait, peut-être je peux avoir quelqu'un de témoignage qui peut dire oui, quelqu'un qui peut confirmer après ces paroles. En fait, en Guinée, il y a plusieurs jeunes, mes frères, mes sœurs qui sont en Guinée, ils ont leur diplôme, plus de 20 ans, ils ont terminé leurs études, ils n'ont pas de emploi jusqu'à présent là où nous sommes, et plus forte raison actuellement là où nous sommes, quand tu prends population guinéenne des jeunes, 100%, 99% sont des conducteurs de taxis motards. Et d'autres, si tu n'es pas devenu un artiste, tu n'auras pas la bonne heure dans la vie. Et pourtant, tout le monde n'est pas destiné d'être célèbre dans la vie. Et on a besoin aussi d'avoir de bonheur, même sans être sur les réseaux sociaux, en fait, d'être aussi une star ou de t'embaucher dans l'affaire de musique. Tout le monde ne peut pas être musicien, ni danseur, ni aussi de célèbre sur les réseaux sociaux. C'est toi qui as vécu, comment tu vivais dans ton pays natal, d'où tu as quitté. C'est toi qui sais comment ça s'est passé là-bas. Et sur le chemin, ils vont te poser des questions, comment tu as traversé les volontaires. Donc, c'est toi qui sais aussi comment tu as traversé les volontaires avant d'être en Europe ici. Et du coup, quand tu leur expliques des choses pareilles, ils vont dire, ah, alors, un mineur ne peut pas faire tout ça, un mineur ne peut pas expliquer. Et en fait, du coup, moi, quand même, je suis sorti avec ma sœur. Je suis sorti avec ma sœur, celui qui était... Je le considère aussi étant comme une mère, parce que celui... Parce que moi, en fait, je n'ai pas reconnu ma mère. Ma mère, elle est décédée lorsque j'étais très, très enfant. Donc, du coup, c'est ma sœur qui s'occupait de moi.
D'ailleurs, sur Albi ou Toulouse, tu as pu retrouver des personnes de Guinée-Conakry également
ou... Oui, il y a plusieurs jeunes Guinéens, surtout au département là où je me trouve. Il y a plusieurs Guinéens qui se trouvent là-bas. Là-bas même, c'est comme si c'était une famille.
Donc là, on était en train d'évoquer l'évaluation sociale. Et l'autre critère aussi qui semble complètement improbable, c'est l'apparence physique. C'est-à-dire qu'on va faire une évaluation approximative à partir de la taille, la corpulence. En quoi ces critères sont-ils traversés aussi par des stéréotypes racistes?
Oui, les évaluations, elles sont beaucoup basées sur le physique, sur ce qu'on voit de la personne qui se présente, quoi. Nous, il y a déjà des jeunes qui nous ont dit que l'éducateur en face pouvait sortir des phrases comme « Ah, moi j'ai un neveu de 14 ans, il te ressemble pas, t'as l'air beaucoup plus vieux, quoi. » Ce qui rentre vraiment dans des critères hyper subjectifs et arbitraires. Après, à partir du moment où on voit un petit détail qui peut nous faire dire que bah, peut-être la personne est plus âgée que ce qu'elle dit, bah, il saute sur l'occasion, quoi. Moi, j'ai déjà lu un rapport d'évaluation qui disait « Ah, cette personne a une pomme d'Adam proéminente, donc... c'est sûr qu'il n'est pas mineur. Enfin, c'est un peu tout et son contraire. Des fois, on dit « Ah, il est trop mature pour son âge. Ah, il n'est pas assez mature par rapport à l'âge qu'il prétend avoir. Enfin, » Donc tout ça, ça répond à cette même logique. L'objectif, ce n'est pas de mettre à l'abri le plus de personnes possible. C'est vraiment de faire du tri. C'est vrai qu'il y a cette logique de place. Il y a un certain nombre de places. Donc oui, il faut mettre dehors certains jeunes pour pouvoir en prendre d'autres.
C'est là qu'intervient les controversés tests médicaux avec la radiographie, bon, entre autres, du poignet.
Ce qui est pratiqué, c'est les examens osseux, oui, avec la clavicule et le poignet. Okay. Donc on accompagne des jeunes qui passent une audience avec le ou la juge des enfants. Et en fait, c'est le juge qui demande à faire un test osseux. Il faut savoir qu'il y a certains centres d'évaluation qui demandent des tests osseux. Mais nous, c'est pas le cas sur Albi. En fait, il faut que ce soit une demande qui soit faite par le procureur. Ces tests osseux, ils sont faits dans les unités médico-judiciaires. Donc c'est les endroits où quand on se fait agresser, on y va pour faire reconnaître ses blessures et tout ça. Mais du coup, c'est aussi un endroit de tri des jeunes étrangers. C'est basé sur des radios en fait, qui ont été faites de jeunes, alors entre 1931 et 1942. Donc on peut s'imaginer que voilà, les choses ont un peu évolué quand même depuis. Ça s'appelle l'Atlas de Greulich et Peel. Alors je ne sais pas si c'est Peel ou Pile, mais en tout cas, c'est un atlas qui est assez controversé. En fait, effectivement, il n'est pas... Enfin, la communauté scientifique n'est pas vraiment unanime, voilà, par rapport à ce truc-là. Et surtout, en fait, c'est pas un atlas qui a été fait pour déduire de l'âge de personnes, mais seulement pour déterminer un peu le niveau de croissance en fait des enfants. Donc c'est un truc qui a été réutilisé pour dire en fait voilà, on va utiliser ce truc là et on va comparer avec les jeunes et puis on va voir en fait si ça correspond, si ça correspond pas. Mais oui, en fait il y a énormément de critiques par rapport à tout ça, En vérité je suis pas sûre qu'on ait besoin de développer tous les arguments, parce qu'en fait c'est assez évident que c'est une aberration. Mais par exemple voilà, on estime qu'en fait il y a des facteurs socio-économiques et nutritionnels qui peuvent en fait modifier clairement la croissance. Et puis en fait cet atlas il a été fait aux États-Unis avec des jeunes qui étaient blancs, enfin voilà, il y a plein de choses en fait qui font que ça n'est pas du tout crédible, enfin en tout cas on peut pas se baser sur cet atlas. Et surtout c'est un examen médical, et nous ce qu'on dit c'est qu'en fait il est hors de question de faire subir un examen médical à des jeunes pour essayer de déterminer s'ils sont oui ou non mineurs. Moi ça m'est déjà arrivé d'accompagner des jeunes pour ces tests osseux, parce qu'en fait il faut qu'ils soient accompagnés par un adulte, ils peuvent pas pas s'y rendre tout seul. Et puis de toute façon, voilà, c'est à l'hôpital. Donc nous, ici, c'est à Purpan. Donc il faut aller à Purpan, il faut trouver l'unité médico-judiciaire. Voilà, c'est tout un parcours quand même. On se retrouve quand même face à un médecin qui va venir nous dire, ben voilà, on va faire une radio de ton poignet, on va faire une radio de ta clavicule, et ensuite je vais regarder et je vais déterminer de ton âge. J'ai toujours trouvé ça un peu vraiment profondément choquant de voir un médecin en face de soi qui va venir nous dire qu'il va déterminer de notre âge avec une radio. C'est violent, et en fait c'est là où moi je trouve que à tous les niveaux de la société le tri il a lieu, et c'est là où voilà, je dis, le racisme d'État il s'exerce vraiment à tous les niveaux, que ce soit à l'hôpital, que ce soit à l'école, que ce soit au niveau judiciaire, dans les tribunaux, avec les travailleurs sociaux, enfin voilà, c'est toute une machine qui est énorme. Et alors après, je ne doute pas qu'il y a de la résistance individuelle. Pour moi, je pense que oui, effectivement, il y a des médecins qui doivent voir les radios et qui doivent dire bah, c'est bon, en fait, ça y est, je vais dire que ça marche, qu'il est mineur. Mais voilà, cette résistance, elle doit être collective. Et c'est pour ça que nous, on dit qu'il doit y avoir des alliances entre les travailleurs sociaux. Alors vraiment, l'idéal, ce serait ça. Ce serait qu'en fait, les travailleurs de la santé, les travailleurs sociaux, les associations, les organisations syndicales, les partis politiques, il y ait une convergence et qu'en fait, on soit collectivement à dénoncer ces pratiques et tout ce racisme d'État qui s'applique vraiment à toutes les échelles de la société, en fait.
Pour eux, en fait, ça veut dire que une radio, une machine, a plus de valeur que leur parole, qui déjà était compliquée à prononcer, à dire, à exprimer. Donc voilà, c'est quand même assez violent. Ça anéantit complètement tout espoir. Et du coup, là, il va y avoir potentiellement un impact très très important sur leur psychisme, quoi. Il va y avoir un affaissement, un fléchissement de l'humeur, il va y avoir potentiellement de la décompensation sur des états de stress post-traumatique. Il y a plein de choses, parce qu'en fait, voilà, l'espoir va être anéanti, quoi.
Le test osseux consiste en une radio de la main. Cette image est comparée à l'atlas de Greulich et Pyle. Un atlas élaboré dans les années 30 à partir des mains d'enfants nord-américains. Il consigne différents stades de développement des os, de la petite enfance à l'âge adulte.
On va prendre la radiographie, on va la comparer aux différents clichés de l'atlas et on va identifier le cliché dont la radiographie est le plus proche. Et on va dire, il a par exemple un âge osseux de 19 ans.
Mais l'âge osseux ne correspond pas forcément à l'âge réel ou chronologique des enfants. Plusieurs instances, comme le Haut Conseil de la Santé publique ou le Comité national d'éthique, ont fait part de leurs réserves ou de leurs inquiétudes concernant ces tests. De leur côté, de nombreuses associations de défense des droits de l'homme les dénoncent.
Pour nous, clairement, les tests osseux, c'est une méthode qui est inadaptée, qui est indigne et qui est surtout génératrice de violence. Et ça, nous, on le voit vraiment au quotidien. Et ensuite, en termes éthiques, on a vraiment la question du consentement, qui doit être effectivement éclairé. Et bien évidemment, là, on se rend compte qu'avec ce public qui est déjà vulnérable, la question du recueil du consentement est très complexe.
Ouais, je trouve vraiment qu'il y a un regard porté sur les corps très raciste. Je voulais savoir ce que ça pouvait impliquer, moi, en termes de scolarité.
Les jeunes, ils peuvent aller à l'école, ils ont le droit de s'inscrire à l'école. Mais pour ça, en général, c'est les associations qui, du coup, les accompagnent pour pouvoir avoir un rendez-vous. Enfin voilà, du gros, on va au CIO, là, le centre d'orientation. Et on a une petite évaluation pour savoir, en fait, à quel niveau scolaire on se situe. Et derrière, il doit y avoir une affectation dans un établissement scolaire. Voilà, il faut savoir qu'à des endroits, ça dure très longtemps. On peut attendre des mois et des mois avant de pouvoir être scolarisé. Des fois, on est sur liste d'attente. Des fois, voilà, il n'y a pas de place. Parce que souvent, ils sont intégrés dans des classes UPE 2A. Donc, c'est les classes pour les élèves allophones arrivant sur le territoire, qui sont des classes réduites. On sait aussi tous les problèmes dans l'éducation nationale. C'est-à-dire que, en fait, les profs se retrouvent parfois avec beaucoup trop d'élèves. Il n'y a pas assez de classes. Il y a, comme je disais, des jeunes qui se retrouvent sur liste d'attente parce que il n'y a pas assez de place. À l'école, il y a quand même cette idée que, en fait, on va pousser les jeunes à aller faire des formations professionnelles, parce que derrière, il faut qu'ils puissent trouver un emploi, remplir, en fait, toutes les catégories des métiers en tension, par exemple, parce que voilà, aujourd'hui, c'est de plus en plus compliqué d'être régularisé sur le territoire. Des questions qui sont un peu complexes, parce que si on n'est pas pris en charge par l'ASE, il faut justifier de 7 ans sur le territoire, il faut faire un métier qui est dit métier en tension, on n'a pas le droit de travailler, mais en même temps, il faut qu'on travaille pour pouvoir être régularisé. Enfin voilà, c'est toutes sortes de contradictions comme ça qui, de toute façon, sont volontaires. Il y a une vraie volonté de maintenir les personnes de manière irrégulière sur le territoire pour ensuite pouvoir justifier une logique d'expulsion, de rétention. Pour revenir sur l'école, en tout cas, il y a ce truc-là de pousser un peu à la méritocratie, donc voilà, dans un truc très individualiste, de ben voilà, il faut que tu t'en sortes, il faut que tu puisses passer ton diplôme, il faut que tu puisses avancer, faire ce métier, machin, pour ensuite, derrière, avoir un apprentissage, se faire exploiter par un patron, et rentrer de toute façon dans ce système pour obtenir une régularisation.
Il faut de la main-d'œuvre peu formée, donc facilement corvéable.
Le budget par jour pour un mineur isolé est moitié moins élevé que le budget alloué pour un jeune français. Par conséquent, les structures de prise en charge ont moins de moyens. Et donc, la prise en charge se fait ouais, un jeune français en danger, en isolement, en situation de difficulté, etc. On ne le laisserait pas à la rue, on ne le laisserait pas en dehors d'une scolarité, on ne le laisserait pas susceptible d'être récupéré par des réseaux de traite. C'est comme tout autre enfant, hein. Il a besoin de sécurité, sécurité affective, de sécurité matérielle, d'un logement digne. Il a besoin d'être protégé, il a besoin d'avoir accès à une alimentation saine. La situation est spécifique chez ces jeunes, chez ces mineurs isolés, c'est que très souvent, ils n'ont pas accès à ces droits fondamentaux. Et que ça a des effets sur leur trajectoire, ça a des effets sur leur personne, et donc ça a des effets sur leur scolarité. Aujourd'hui, la société civile comble les défaillances institutionnelles sur les enjeux migratoires.
Il faut savoir, c'est que ces recours, en fait, aboutissent la plupart du temps de manière positive. Ça veut dire aussi quelque chose sur premières évaluations qui sont quasiment systématiquement refusées. C'est une espèce de machine en fait qui tourne un peu à vide. Il y aura un premier refus et puis après on accepte. Donc qu'est-ce que ça veut dire aussi des décisions plutôt bâclées et arbitraires?
Mais en tout cas, c'est un abandon qui est total. Alors, il y a eu des images qu'on tournait là beaucoup cet hiver des mineurs à Lyon et à Paris qui étaient sous tente, sous la neige, en plein hiver, avec des températures négatives. Ben voilà ce que ça crée en fait. On va laisser les personnes vivre dehors dans la plus grande précarité. C'est quand même assumé par la France qu'on met des mineurs à la rue, en fait, parce que oui, du coup, il y a l'évaluation, on peut être considéré comme non mineur, mais derrière, on a le droit de saisir un juge des enfants. Donc ça veut dire qu'on potentiellement, l'évaluation était mauvaise.
Oui, parce que fin du recours, on peut te considérer comme mineur, c'est-à-dire que tu l'étais avant. Donc
ça veut dire qu'on assume de faire... Alors eux, ils appelleront ça des erreurs, hein, mais pour nous, c'est pas le fruit du hasard, c'est pas des erreurs. Sachant que ce recours, oui, c'est un parcours du combattant, en fait, en réalité. Il faut faire venir les documents d'état civil. En fait, ça a un certain coût de faire venir les documents. Donc il y a des frais à payer, donc que les associations, du coup, peuvent prendre en charge. Enfin, peuvent prendre en charge, je dis ça, mais en fait, les associations, elles fonctionnent beaucoup avec des dons, en fait, donc elles n'ont pas non plus énormément de sous, mais du coup, voilà, tout ce truc-là, la durée, l'attente, parce qu'il y a aussi ce truc-là hyper psychologique, en fait, de pas savoir qu'est-ce qui va nous arriver, de pas savoir si on va être pris en charge ou pas, de pas savoir sur qui on va tomber. De toute façon, une fois qu'on est pris en charge par l'ASE, ça se passe plus ou moins bien, parce que voilà, je le disais tout à l'heure, en fait, la priorité, c'est pas les enfants, le budget, il est pas axé autour de l'aide sociale à l'enfance. Donc oui, il y a un manque d'éducateurs, on manque de tout.
Ouais, parce qu'en plus, l'ASE, c'est qu'une étape, c'est pas la fin de tous les problèmes. Ça te permet d'avoir un peu de répit, mais pour une durée limitée.
Oui, et puis, donc il y a la possibilité, quand on est à l'aide sociale à l'enfance, enfin, de signer un contrat jeune majeur qui permet de pouvoir être pris en charge jusqu'à 21 ans. Enfin, voilà, c'est un truc qui peut être renouvelé, en tout cas jusqu'à 21 ans. Mais ça, c'est un peu la carotte, quoi. Enfin, quand ils arrivent à l'ASE, on leur dit « Ah, ben, si tu te tiens à carreau, en fait, tu pourras signer un contrat jeune majeur. Donc, fais pas trop de vagues. Et puis ensuite, tu pourras signer un contrat et puis on va t'accompagner jusqu'au bout, jusqu'à 21 ans. » Bon, moi, j'estime que 21 ans, en vrai, le contrat pourrait aller beaucoup plus loin que 21 ans, en fait. Mais voilà, après, ça devient... oui, évidemment, c'est compliqué, être pris en charge par l'ASE, ça ne veut pas dire qu'on va être régularisé sur le territoire et que tout va bien se passer. Non, il y a certains critères. Alors, si on est pris en charge avant 15 ans, du coup, on a de la chance, potentiellement on peut demander une naturalisation. Si on est en prise en charge avant 16 ans, ben là on aura peut-être un titre vie privée familiale, donc peut-être plus facilement accessible. Mais après ça devient compliqué, de toute façon il faut demander des titres de séjour, il faut travailler, il faut exercer un métier dit en tension. Quand on est naturalisé, ça donne quand même une certaine sécurité, on se dit de toute façon on ne peut pas être expulsé du territoire.
Katuba